Et nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Françoise Cobre et Monsieur Nino Rizzo qui animent un certain nombre de ces conférences. Françoise Cobre, le deuil dont nous venons de parler, qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce que ça paraît difficile cette appellation et qu'est-ce qu'il y a derrière?
Oui, ça fait un peu peur parce qu'on pense à des choses graves comme la mort. Mais en un sens, c'est vrai que c'est une séparation de choses qu'on ne retrouvera plus tard. On ne peut plus retrouver son corps d'enfant, c'est fini, terminé. Donc c'est un passage à quelque chose de tout à fait différent et qui ne permettra pas que les choses d'autrefois reviennent. Mais souvent j'utilise une comparaison et je dis dans un deuil, on vit un héritage. Et quand on reçoit un héritage de, je ne sais pas, sa tante Amélie, on reçoit un très joli secrétaire qu'on va garder, mais la table de cuisine, eh bien non, on ne la garde pas, on la vend au marché aux puces ou on la donne. C'est-à-dire que dans la vie psychique de l'adolescent, dans ce travail qu'il doit faire par rapport au détachement de sa famille, il y a des choses qu'il peut garder et il y a des choses qu'il peut rejeter. Alors, comme souvent l'adolescent a des réactions très en bloc, il jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que son père, il ne veut plus le voir. Il le trouve insupportable, il ne veut pas ressembler à son père. Puis finalement, plus tard, il découvre que son père, il est agaçant sur certains points, mais que d'un autre côté, il est drôlement sympa et qu'il y a certains liens communs qui sont tout à fait valables. Je pense par exemple à un jeune qui me disait qu'au fond, son père l'agaçait terriblement dans sa façon de parler, mais que quand il se sentait un besoin d'être vraiment honnête, il ne peut pas tricher quand il passe la douane, il se rappelait combien son père était un homme honnête. Et là, il y a une structure tout à fait solide et constructive qui s'opère dans ce travail de deuil. Donc on laisse certaines choses, on fait un tri, c'est ça ce travail.
Alors, j'ai encore plein d'autres questions à vous poser, mais je pense qu'il serait bien, Nino Rizzo, que vous nous présentiez la dernière conférence, celle d'ailleurs que vous allez présenter vous-même.
Oui, et qui concerne la violence. De plus en plus, la violence fait problème, pose problème. Et il s'agit de différentes formes de violence, que ce soit uniquement la violence à l'intérieur de la famille, ou que ce soit la violence à l'école, la violence dans la société. Toujours est-il que toutes ces formes de violence ont la même matrice, la même origine. À l'adolescence, du fait que le jeune garçon, la jeune fille se trouvent à vivre un changement important, une perte, et comme je disais, quelque chose qu'ils ne sont pas sûrs d'aller pouvoir retrouver par la suite, ce statut d'adulte, il y a toute une angoisse, il y a toute une sorte d'énergie vitale que l'on appelle en psychanalyse violence fondamentale. Cette énergie vitale est réactivée et il faut en faire quelque chose. Or, c'est là où le choix s'opère. Au moment où cette violence fondamentale vient à être réactivée, le jeune, que va-t-il en faire? Comment va-t-il l'utiliser? Va-t-il l'utiliser dans le sens de la construction, de la vie? Et alors là, ça sera une vitalité? Ou bien va-t-il l'utiliser dans un sens plutôt destructif, en s'enfermant ou en s'en prenant à ses parents, à la société, à ce qu'il fait, à son corps? Et là, les images du suicide, de la toxicodépendance, les images de la boulimie ou de l'anorexie sont par exemple des formes d'attaque contre son propre corps, pour ne pas parler des formes d'attaque de violence contre la société à travers la délinquance ou la toxicodépendance elle-même. Alors voilà, il s'agit à l'adolescence de reprendre ce gros paquet d'énergie, de violence fondamentale, comme l'on dit en psychanalyse, pour en faire quelque chose de bon. Mais parfois, hélas, l'adolescent en fait quelque chose de destructif pour lui-même ou pour les autres. Et à l'adolescence, le destin de cette force vitale se joue. Et ça se joue en l'espace de 4, 6, 8 ans, le temps où l'adolescence se déroule.
Et dans cette situation-là, quelle peut être alors la réaction des parents? Parce que, à vous entendre, on aurait l'impression que tout se joue dans l'adolescent et pas forcément dans son rapport avec les autres.
Justement, ça se joue fondamentalement dans le rapport avec les autres. Les premières formes dans lesquelles se manifeste cette force vitale, c'est l'agressivité. L'adolescent commence à s'en prendre à ses parents. Avant de pouvoir prendre conscience de son malaise, l'adolescent dira que c'est la faute au prof, aux parents, à la mère. Nous avons tous fait comme ça, tout adolescent fait comme ça. Il projette, comme on dit, son malaise vers autrui. Donc si l'adolescent a par exemple une certaine peur de prendre sa liberté parce qu'il ne sait pas, il n'est pas sûr de pouvoir bien l'utiliser, alors il aura plus facilement tendance à s'en prendre aux parents qui ne lui donnent pas toute la liberté qu'il veut. Un adolescent me disait dernièrement, non, moi c'est tout ou rien. Je ne veux pas des compromis, je ne veux pas qu'on me dise tu peux sortir jusqu'à 11h ou 11h30. Moi je veux sortir jusqu'à ce que je veux. Mais bien évidemment, lorsqu'on creuse un petit peu et que l'on voit ce qu'il ferait s'il pouvait rester jusqu'à tard et même passer une bonne partie de la nuit, on se rend compte que là il ne sait pas très bien. Il serait peut-être encore plus paumé. Mais au lieu de reconnaître dans un premier temps cette peur de ne pas savoir utiliser son corps, ses affects, de se trouver face à des échecs, alors il est plus facile de la renvoyer contre les parents. Et c'est là où le rôle des parents devient très important, car il s'agit pour les parents de renvoyer cette agressivité, ce qui va permettre par la suite à l'adolescent de la prendre à son compte, de se rendre compte de son malaise, et dès lors, seulement dès lors, il peut en faire quelque chose. Mais tant que l'adolescent restera fixé à cette idée que, par exemple, s'il va mal à l'école, c'est la faute à papa ou à maman, ou s'il n'a pas de petite copine ou d'amis, c'est la faute aux parents qui ne le laissent pas sortir comme il aimerait, tant qu'il en reste à cette forme de raisonnement qui lui permet de projeter ses difficultés sur autrui, il ne pourra pas prendre à son compte ses difficultés pour essayer de les dépasser. Alors c'est là où ce destin se joue entre vitalité, quelque chose de constructif, ou bien violence contre soi-même, contre les autres.
Dans tous les thèmes que vous avez abordés, il y a bien sûr chaque fois la présence des parents et des enfants. Est-ce qu'on peut faire une différence entre le rapport de la mère avec ses enfants et le rapport du père avec ses enfants ?
Ce qui est difficile, c'est que comme mère, on est très caractérisé par la mère de la petite enfance, c'est-à-dire la mère qui était là avec les petits, qui s'occupait d'eux, qui les protégeait, etc. Alors, à l'adolescence, c'est difficile d'être une autre mère, et c'est difficile pour l'adolescent, ou l'adolescente surtout, de voir dans cette femme autre chose que la mère de l'enfance. C'est-à-dire une femme qui a des problèmes, qui a un autre type de relation. Alors, pour la mère, c'est ce rôle de mère de l'enfance qui lui colle à la peau, si on peut dire. J'ai l'impression que le père est un peu plus libre dans ce sens-là. Qu'en penses-tu ?
Oui, effectivement, ça toujours été comme ça. Le père, lui, n'est pas le père de l'enfance, effectivement. Le père souvent devient père lorsque l'enfant devient adolescent. Mais aujourd'hui, on est confronté à quelque chose qui se passe chez le père comme un miroir par rapport à la mère. C'est-à-dire que on voit de plus en plus des pères qui investissent leur paternité déjà dès tout petit, et à l'adolescence, ces pères ont plus ou moins ces mêmes difficultés dont Françoise parlait, c'est-à-dire le père a une certaine difficulté à prendre une distance de son rôle de père de la petite fille ou du petit garçon pour se positionner en tant que père d'un adulte, et donc adulte face à un jeune adulte. Et là aussi, de plus en plus, on voit des pères qui présentent cette difficulté à prendre la distance par rapport à ce père d'enfant qu'ils ont été.
Tu veux parler du papa poule ?
Voilà, c'est comme ça qu'on le dit.
Qu'est-ce que c'est qu'un papa poule ?
Alors, un papa poule, c'est un papa qui découvre tout le bonheur qu'il y a à vivre dans la paternité. Ce bonheur que souvent les pères ont regardé avec dédain et qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes investissent, vivent.
Ce qu'on appellerait les nouveaux pères dans un autre
voilà,
langage.
Voilà, c'est ça, on appelle ça les nouveaux pères. Mais vous voyez, pour les nouveaux, maintenant les nouveaux pères finalement découvrent les mêmes problèmes que les femmes connaissent depuis le début de la vie. C'est-à-dire que, au fond, ça se passe entre le père et ses enfants, entre la mère et ses enfants, comme dans toute histoire d'amour. Plus l'histoire d'amour a été forte, belle, intense, plus la séparation, même si elle est inscrite dans une évolution normale, peu importe, on s'en fiche. À l'adolescence, ça fait mal, la séparation. Et elle fait d'autant plus mal qu'on a été proche des enfants. Donc, jusque-là, il y a eu une sorte d'équilibre. La mère, elle, a été la mère de l'enfant. Le père, lui, a été le père à distance. Et en certains moments, le père pouvait plus ou moins prendre la relève. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le père, lui-même, a été si proche de l'enfance et que maintenant, il souffre, lui, de voir grandir ses enfants? Alors, moi, je suis confronté depuis quelque temps à des pères qui viennent consulter eux-mêmes ou des pères pour lesquels la femme consulte et le message est un peu le suivant, aidez-moi mari à laisser partir notre fille. On voit ces situations que l'on est habitué à voir du côté des femmes, des mères, lorsqu'elles ont cette difficulté qui me paraît tout à fait normale et saine, au fond, de laisser grandir et partir leurs enfants. Maintenant, on la voit aussi du côté des pères et surtout dans le rapport père-fille.
François Scope, vous ressentez parmi les femmes, si je vous pose à vous la question, c'est peut-être parce que vous êtes femme, je ne sais pas s'il y a une connivence particulière en tant que thérapeute avec les femmes ou si vous arrivez à parler indifféremment avec les pères ou avec les mères. Mais vous parliez tout à l'heure de cette mère qui est cataloguée mère de la petite enfance. Il se trouve que depuis un certain nombre d'années, beaucoup de femmes ne sont plus que la mère auprès de leurs enfants, mais travaillent et doivent souvent jongler avec plusieurs rôles en même temps, les fameuses superwomen, comme on les a appelées. Est-ce que, quand elles doivent se confronter avec l'adolescence, ça change quelque chose, qu'elles aient été ces femmes avec plusieurs fonctions, en tout cas celle de travailler et celle d'être auprès de leurs enfants?
C'est pas le fait d'avoir travaillé ou pas qui, à l'extérieur, qui change les choses, c'est comment les choses ont été vécues. Et alors là, j'aimerais bien parler des familles monoparentales, parce que on a raconté des tas de mythologies sur les enfants de parents séparés qui deviennent des délinquants. C'est complètement absurde. Et actuellement, les recherches qui sont faites montrent que c'est parfois des enfants qui sont très débrouillés et qui sont très très bien dans leur peau. Mais il y a une fragilité qui est réelle dans les familles monoparentales sur le plan financier et sur le plan de la fatigue. Il y a un phénomène de burn-out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un phénomène d'épuisement très facile. C'est plutôt là une des grosses difficultés. Mais une famille où la séparation des parents s'est bien faite, c'est-à-dire s'est faite sur un plan conjugal, tout en maintenant le lien parental de chaque parent avec l'enfant, les choses sont relativement claires. Et puis, il y a une deuxième chose qui me paraît très, très, très fondamentale. C'est que le parent qui, parfois, est plus en charge que l'autre de la vie quotidienne ou du développement de l'enfant, ne veut pas, par amour et par bonne volonté, faire tout. C'est-à-dire qu'une femme commence à se dire « bon, ben moi, je pourrais peut-être aussi être un peu papa ». Ou bien que le papa poule, qui est en fait un père qui fait aussi un peu la maman. C'est pas simplement le nouveau père qui s'occupe des gosses, mais le papa qui en fait presque trop. C'est pour ça qu'on en rit quelquefois. Mais vouloir être tout pour un enfant, je pense que c'est très malsain. Et autant reconnaître qu'on n'est qu'une partie d'une totalité parentale. Et qu'à ce moment-là, eh bien, le parent cherche à l'extérieur, dans son voisinage ou dans des services spécialisés ou dans les amitiés qu'elle peut avoir, un interlocuteur ou une interlocuteur. C'est-à-dire quelqu'un qui renvoie le dialogue, qui permet de prendre une certaine distance par rapport à ce qui se passe et qui, aux yeux de l'enfant, ne fait pas d'un parent seul un parent tout puissant, ce qui serait complètement aberrant.
Donc finalement, l'importance du couple, mais pas forcément le couple vivant ensemble, mais de la mère et du père, on retombe tout le temps dessus, même par rapport à la modernité où chacun essaye d'assumer un peu les mêmes rôles auprès de l'enfant. En fait, on aura toujours l'histoire de la mère et l'histoire du père par rapport à ses enfants. Ils hochent la tête tous les deux, mais oui, ne disent oui, pas oui, un oui. mot.
Et c'est tellement vrai ce que vous dites là, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait une métabolisation des positions du père et de la mère pour qu'on puisse construire sa personnalité, c'est évident. Et on ne peut pas, à cause d'un aléa dans la vie conjugale, faire table rase d'un des parents. Ce n'est pas possible.
Est-ce qu'un jour on aboutira au fait que le père et la mère ont exactement la même présence auprès des enfants et qu'on ne pourra plus dire « Ah, cette fille rejette sa mère » ou « Ce père a des problèmes à séparer de sa fille ». En fait, ils auront une présence tellement semblable auprès des deux enfants qu'il n'y aura plus de différence.
Alors là, je me hérisse tout à fait parce que je me surprends à dire quelquefois aux mères, c'est pas en faisant le ménage que vous êtes une bonne mère. Il y a une spécificité de la relation de mère, de même qu'il y a une spécificité de la relation du père avec ses enfants. Et c'est pas en longeant les enfants, en leur donnant à manger, en les réveillant, en les amenant à l'école, toutes ces tâches ménagères et familiales, elles peuvent être tout à fait polyvalentes. C'est la façon de vivre sa fonction parentale qui est importante. Qu'est-ce que tu en penses ?
Écoute, j'ai pas voulu répondre avant toi par peur de paraître trop rigide ou trop net dans ma réponse. Mais effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'on en arrivera à ce point-là. Je le souhaite du moins. Je pense que nous avons chacun de nous, en tant que père ou mère, une spécificité. Mais déjà, vous voyez, même avec le bébé, et souvent, si vous voyez un père, même un de ses pères poules, prendre son bébé, eh bien, il le prendra souvent avec une tonicité musculaire qui est différente de la mère. Le père le prendra pour le secouer, pour le chatouiller, pour l'exciter. Je ne veux pas dire par là que ça se passe toujours comme ça, mais il y a une certaine tendance, une certaine spécificité, oui. Et je crois que cette tonicité musculaire qui est différente souvent dans le contact que le père a vis-à-vis de son enfant, on la retrouve dans une sorte de tonicité relationnelle. Même si le père est plus proche que nos pères l'ont été avec nous, mais en général, il garde une spécificité, une différence dans sa manière relationnelle. Bien sûr, cette différence est liée aussi au mode de vie. Je veux dire par là que dans la mesure où le père a souvent été l'intermédiaire entre la famille et la société, car c'est lui qui a souvent travaillé et pas sa femme, c'est clair que là, il y a eu une spécificité due au rôle social et que dans la mesure où dans nos sociétés cela change, eh bien, il y a là des éléments qui se modifient aussi. Mais tout de même, je pense qu'il y a une réalité biologique qui commence avec le fait que la mère, au début, est beaucoup plus proche de l'enfant, je dirais plus, elle est. L'enfant en même temps, elle est avec l'enfant, expérience que le père ne connaît pas. Et je crois que ce genre d'expériences sont des expériences qui nous marquent et qui nous structurent dans le rapport qu'on aura par la suite.
Est-ce que d'ailleurs ces pères poules ou ces nouveaux pères sont une chose qui est fréquente ? Parce qu'on y donne beaucoup d'importance dans notre conversation, mais vous qui rencontrez souvent des parents, est-ce que vous rencontrez plus fréquemment ces hommes qui ont décidé de ne plus être absents dans la vie de famille et qui sont là auprès non seulement de leurs petits-enfants, mais qui sont toujours là au moment de l'adolescence ?
Moi, je vois pas mal de pères qui travaillent à temps partiel et des femmes qui travaillent à temps partiel aussi, qui essayent d'aménager les horaires. Mais actuellement, sur le plan professionnel, c'est pas facile d'avoir cette complémentarité. même si un père travaille à plein temps et une mère, par exemple, à mi-temps, le fait qu'il est plus impliqué dans la vie de la famille par sa présence au moment du coucher, où lui pourra peut-être prendre le relais une fois à la place de sa femme. Moi, je sens cela pas dans une répartition des présences, mais plutôt un partage, je les sens plus impliqués.
Et dans une complémentarité aussi, parce que je crois qu'il est bon d'être différent et il est bon pour l'enfant de sentir la différence. Je crois que ce qui permet à l'enfant, à l'adolescent, de définir ses repères identitaires sexuels, donc ce qui permet à l'adolescent de se dire voilà comment je vais être comme homme, voilà comment je vais être comme femme, c'est justement de voir papa et maman fonctionner fondamentalement de manière différente. Pas sur le plan du travail ou de la vie sociale, économique, mais de manière beaucoup plus globale. C'est justement le fait que l'enfant ait deux éléments, deux points de repère différents, c'est ça ce qui va lui permettre à lui de se situer entre ces deux éléments. Et si, par exemple, l'enfant, l'adolescent vivait avec deux parents qui seraient identiques en beaucoup de choses, en tout, et dans tout leur comportement au quotidien, eh bien, l'adolescent n'aurait pas cette palette de possibles à l'intérieur de laquelle se situera lui-même. Donc, la différence est synonyme de richesse.
Est-ce que lors des conférences que vous organisez dans le cadre de l'école des parents, il y a des parents, les pères comme les mères qui viennent participer à ces conférences, ou vous remarquez une prédominance de l'un des deux parents?
Bien, dans les groupes, effectivement, nous avons plus de mères. Mais hier au soir, je dois dire, le public était très partagé.
Oui, oui, oui. Mais enfin, restons quand même prudents. On parlait de papa poule. Effectivement, cela est lié à une réalité économique et professionnelle bien précise, et cela se retrouve notamment dans certaines classes sociales. C'est pas l'employé à la Migros, à la Coop ou dans telle usine qui pourra demander en temps partiel. Il y a là une réalité économique qui ne transige pas. Donc, de ce point de vue-là, déjà, ceux qui peuvent se permettre le luxe d'être des papas poules sont une minorité. Et puis, cela demande aussi une certaine ouverture mentale qui va aussi de pair avec le temps libre, oui, avec tous ces éléments de la vie concrète. Donc, c'est vrai, on parle beaucoup de papas poules, mais je pense que nos groupes reflètent bien cette réalité, je veux dire, dans des pourcentages de l'ordre de maximum un quart d'hommes sur trois quarts de femmes. Et quand on a une telle distribution de un quart et trois quarts, eh bien, nous estimons qu'il y a une bonne participation masculine.
Alors, on peut peut-être, pour conclure, rappeler les thèmes des conférences. Est-ce que, à votre avis, ce serait bien que les parents qui ont envie de se questionner sur comment se relier, se relationner avec leurs enfants, suivent l'ensemble des conférences, ou que ça doit vraiment être lié à leurs demandes et aux thèmes qui les préoccupent l'un ou l'autre? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'ils vont chaque fois découvrir quelque chose de nouveau d'une conférence à l'autre, qui peut-être au bout des 6 conférences fera qu'ils se sentiront un peu plus à l'aise et mieux dans leur rapport avec leurs jeunes adolescents et adolescentes?
Je vais vous faire une réponse de Normand, oui et non, en ce sens qu'on parle toujours du même objet, de la même chose qu'on voit sous un angle différent. Alors il y aura des apports, et je pense qu'il y a aussi une spécificité dans certains de ces apports, et il y aura d'autres choses qui seront reprises, parce que il y aura certains parents qui n'ont pas été aux autres conférences, donc c'est toujours important que cette spécificité soit située par rapport à l'ensemble de la situation de l'adolescence et de la famille.
Je pense qu'il y a aussi un autre élément. Le fait de venir à une conférence, ou le fait de venir à deux, ou à la limite de venir à la première et à la dernière, par exemple, ça permet d'être dans une sorte de bain. C'est-à-dire les personnes qui vont venir à deux, trois ou dans le meilleur des cas aussi conférences, vont pouvoir se situer dans une sorte de bain de réflexion qui se continue d'une conférence à l'autre. C'est aussi pour ça que nous avons préféré cette formule étalée sur 3-4 mois plutôt que, par exemple, une journée entière où les 6 conférenciers auraient pu intervenir l'un après l'autre. Pour nous, l'élément temps est un élément très important de mûrissement des éléments que les parents vont pouvoir entendre d'une conférence à l'autre.
Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous n'aurons pas eu malheureusement le temps, dans le cadre de notre émission Remue-Ménage de ce soir, d'aborder toutes les questions qui nous intéressent et qui nous préoccupent sur le problème de l'adolescence. Donc, nous pouvons qu'encourager très vivement nos auditrices et nos auditeurs, parce que nous espérons avoir aussi des auditeurs, à suivre ce cycle de conférences. On peut peut-être rappeler que donc, la première conférence était hier soir, la prochaine sera mardi 22 octobre. Il y en aura une encore le 19 novembre, le 10 décembre, le 14 janvier, le 4 février. Mais pour vous rappeler tout ça bien plus concrètement, il suffit soit d'écrire à l'école des parents 91 rue de la Servette 1202 Genève, ou peut-être tout simplement de demander le programme au téléphone en appelant donc à Genève le 733 12 00. Et c'est donc chaque mardi à 20h30 à l'école des parents 91 rue de la Servette. Je vous remercie. Merci Françoise Cobre et Nino Rizzo d'être venus nous expliquer tout cela. Et j'espère que ça encouragera beaucoup de nos auditrices à venir participer à vos discussions.
Merci à vous.
Merci.
Das tun Onkel und Tante, und nichts freut sie, was ich auch tu. Das ist kein Leben, das ist nur Verdruss. Den Mann, was soll denn werden, ertragen muss. Ich hab einen Koffer voll habe, den schleppe ich überall hin. Ach, wenn ich mich doch seiner entledigen könnte, weil ich mir die Finger wund habe und auch nicht die kräftigste bin. Und nirgends will man mich behalten, weil ich nirgends gern gesehen bin. Am liebsten möchte ich einfach weg. Nach meinem eigenen Sinn.
Voilà, c'était Ute Lemper, cette chanteuse magnifique allemande qui nous repassait toute une série des chansons des années 30. Je vous rappelle donc que ce cycle de conférences se termine bientôt, proposé par l'École des parents. Il vous reste le mardi 14 janvier et le mardi 4 février. Alors, précipitez-vous. Et j'espère que vous aurez apprécié la rediffusion de cet entretien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet, un nouveau sujet. Et pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter la chanteuse Aster Aweke, qui est un nom très particulier dans les oreilles des Éthiopiens. C'est une chanteuse professionnelle qui chante depuis plus de 12 ans, qui a écrit et fait des concerts dans un style très particulier. Chants qui sont devenus un peu des sortes d'hymnes en Éthiopie et parmi les Éthiopiens à l'extérieur. Elle vit aujourd'hui en Amérique depuis 8 ans et ce disque que vous allez entendre, enfin la chanson dont que vous allez entendre, est une sorte d'introduction à sa musique. Aster Aweke, chanteuse éthiopienne. Remue-ménage, Radio Zone 93.8.